Vous écoutez
RMC.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous. 7h59.
RMC, Apolline Matin.
Et ça y est, il est 8h et c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Vraiment un sale temps pour le porte-monnaie. 8 Français sur 10 disent qu'ils se serrent la ceinture. Énième conséquence de la guerre au Moyen-Orient à laquelle Sébastien Lecornu va tenter de répondre ce soir en faisant des nouvelles annonces. Avis de tempête, vous verrez, sur Roland-Garros qui commencera dimanche. Les joueurs de tennis vont faire comme une grève demain pour demander de meilleures primes. Et le soleil, oui, de retour. On sera à Toulouse dans ce journal où on aura un avant-goût de l'été dès aujourd'hui.
Nous sommes le 21 ce matin et énormément de Français sont déjà dans le rouge.
8 Français sur 10, oui, racontent qu'ils sont obligés de se serrer la ceinture et de faire attention à chaque dépense, d'après le dernier baromètre Elab pour BFM TV. C'est un chiffre qui est en hausse de 4 points sur les 4 derniers mois et ça coïncide avec la guerre au Moyen-Orient qui a fait flamber les prix des carburants et à la consommation. Il manque 500 euros chaque mois pour vivre correctement, disent les deux tiers des Français. Écoutez la preuve avec Antonin Audion pour RMC.
Depuis quelques mois, Mylène a changé ses habitudes lorsqu'elle fait ses courses.
Je regarde beaucoup plus. Par exemple, dans les supermarchés où je vais, il y a le scan achat. Et donc, je vais faire beaucoup plus attention au total avant de remplir le panier davantage. Et en effet, un panier de courses avant à 100 euros, où il y avait énormément de choses, maintenant on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose.
Cette mère de famille qui habite dans la Creuse est donc obligée de faire des choix.
Moins consommer, on achète moins, un petit peu moins de plaisir finalement aussi à la famille. C'est méga frustrant pour quelqu'un comme moi.
Mylène essaye donc de trouver des solutions pour consommer pas cher.
Par exemple, dans les primeurs, ils font des paniers anti-gaspi.
7 Français sur 10 se sont mis à acheter dans les rayons anti-gaspi selon l'étude. Alexia a pris cette habitude il y a quelques mois et elle économise à chaque passage en caisse.
Un bon 40%. Là, si par exemple j'avais été dans mon magasin habituel, j'aurais payé le double. Ça compte clairement. Effectivement, le concombre, il peut être un peu tordu, la carotte un peu plus petite, mais voilà, pas de problème avec ça. On est très contents qu'ils soient en bas de la maison.
En plus de ces rayons anti-gaspi, les bons de réduction et la seconde main sont de plus en plus utilisés par les Français.
Et voilà donc dans quel contexte le Premier ministre Sébastien Lecornu fera de nouvelles annonces à 17h tout à l'heure sur les prix et les carburants et plus largement sur toutes les conséquences économiques de cette guerre au Moyen-Orient. Sébastien Krebs, chef du service politique RMC en direct ce matin. Sébastien Lecornu a déjà promis un changement d'échelle dans le dispositif, mais ce ne sera pas généralisé.
Ah non, on va plutôt rester sur un goutte-à-goutte. Pas question d'ouvrir les vannes, de baisser les taxes par exemple. Le Premier ministre va le marteler cet après-midi. Son cap ne varie pas. Les aides resteront très ciblées, uniquement destinées à soutenir l'activité économique et dans un contexte budgétaire qui ne peut que se dégrader dans les mois qui viennent. Autrement dit, le gouvernement n'a pas d'autre choix que de garder le pied sur le frein. C'est pour prendre le temps de cette explication que Sébastien Lecornu a donc convoqué pour la première fois une conférence de presse cet après-midi. Préparer les esprits aussi à des décisions difficiles, prévient son entourage. La promesse, c'est tout de même que les travailleurs gros rouleurs soient plus nombreux à être soutenus. Les soignants, par exemple, attendent beaucoup. Les secteurs professionnels aussi, en plus des agriculteurs, des pêcheurs, du BTP, on attend des annonces dédié aux taxis ou à d'autres secteurs impactés comme l'industrie de la chimie. Et parce que l'État ne peut pas tout, le Premier ministre réfléchit aussi à inciter les entreprises à prendre leur part en versant, par exemple, des primes à leurs salariés qui roulent beaucoup.
Et hasard du calendrier, j'en profite pour vous rappeler que c'est le dernier jour pour déclarer ses revenus en ligne jusqu'à 23h59, ce soir précisément dans les départements qui vont des numéros 01 à 19, autrement dit de l'Ain jusqu'à la Corrèze. Les autres auront un petit peu plus de temps. Il y a plusieurs maires qui prennent la parole depuis hier soir, ceux de Paris, de Lille, Saint-Etienne, Brest, Marseille aussi. Tiens, Marseille, c'est RMC qui vous l'a révélé, pour demander à Patrick Bruel de renoncer à ses concerts prévus, vous le savez, à partir du mois prochain dans une cinquantaine de villes. Lui qui est accusé de violence sexuelle par une trentaine de femmes est visé par 5 enquêtes, 4 en France et une en Belgique, où il y a d'ailleurs ce nouveau témoignage ce matin. C'est celui d'une attachée de presse qui accuse le chanteur d'agression sexuelle en 2010 dans les locaux de la télé belge. Écoutez ce qu'elle dit avec Amélie Courtet.
Dès l'arrivée de Patrick Bruel en Belgique, des taquineries légères, ambiguës, fusent.
Mais très très vite, ça devient pour moi un harcèlement.
Je suis devenue sa proie, raconte Karine Viseur. En permanence, il cherche son contact.
J'aurai toujours sa main soit dans mon dos, soit dans mon cou. Il ne demande pas, il ne demande jamais. Il n'a pas de limite en fait.
Et personne ne lui en met jusqu'au soir où elle se retrouve seule avec lui dans un couloir de la RTBF, le média public belge.
Il m'attrape par le poignet et m'attire dans la toilette qu'il ferme à clé. Il essaie essaye de m'embrasser, s'élève dans mon cou, ses mains qui caressent mes jambes, qui remontent sous ma robe. Je m'isole, mon cerveau est ailleurs.
Elle dit non à plusieurs reprises, Patrick Bruel n'écoute pas.
J'arrive, heureusement, à me défaire de ce et je continue à la promotion du film.
Pendant 15 ans, Karine Viseur enfouit ce traumatisme. Aujourd'hui, comme une trentaine d'autres femmes, elle sort du silence.
Je sens que les paroles se libèrent. Ça demande énormément de courage parce que je suis entachée et c'est à vie.
Elle salue les élus qui appellent le chanteur à ne pas se produire dans leur ville. C'est honorable, respectueux envers les victimes, dit-elle.
Voilà pour le récit d'Amélie Courtet avec ce témoignage recueilli par BFM TV. Tiens, j'ai des nouvelles rassurantes à vous donner. Ousmane Dembélé, ce matin, il pourra jouer a priori la finale de Ligue des Champions dans 9 jours, touché au mollet le week-end dernier. Mais ça va le faire, c'est ce que dit l'attaquant lui-même dans un entretien exclusif à RMC. À ne surtout pas manquer ce soir à 18h dans l'émission Roten sans flamme. On peut pas faire plus français comme information. Il y aura grève des joueurs de tennis demain lors de la présentation du tournoi de Roland-Garros qui commencera dimanche. Les vedettes du circuit en fait demandent une meilleure redistribution des recettes dans les tournois du Grand Chelem. Ça faisait un petit moment que ça a monté cette colère et il y aura donc comme une grève demain, Eric Salio.
Oui, les prises de position lors du tournoi de Rome, avec notamment une menace de boycott de la part d'Arina Zabalenka, la numéro 1 mondiale, vont avoir une suite demain à Roland-Garros à l'occasion du Media Day. C'est une journée où traditionnellement les stars accordent une heure de leur temps avec des interviews exclusives au profit des télévisions qui payent très cher des droits. Et là, on se dirige vers un service minimum, à savoir 15 petites minutes de conférence de presse, une action forte et totalement inédite qui place la Fédération française dans une position très embarrassée. Une réunion avec les agents est envisagée demain après-midi, mais on n'est pas à l'abri que cette initiative s'étende durant toute la quinzaine.
Bon, et je peux déjà vous dire qu'il n'y aura pas de pluie pour les premiers jours du tournoi de Roland-Garros. Vous savez qu'on surveille ça chaque année. On passe niveau météo d'un extrême à l'autre. On avait de la pluie, même de la neige, il y a une semaine pour le pont de l'Ascension avec des températures qui étaient 5 degrés en dessous des normales de saison. Et on bascule brutalement, là, soudain, dans une ambiance estivale avec des températures qui seront jusqu'à 10 degrés au-dessus, cette fois, des normales. On va dépasser les 30 degrés aujourd'hui dans le sud-ouest, à Bordeaux, à Biarritz et à Toulouse aussi, où notre correspondant Jean-Wilfried Forquès s'est obligé de changer sa garde-robe.
Lali et ses collègues ont attendu l'arrivée de la chaleur pour installer dans les rayons de cette boutique de vêtements la collection été.
Une collection un peu plus colorée, un peu plus fine, qui fait du bien pour l'été.
Et une couleur est à l'honneur pour ces journées ensoleillées.
On veut du renouveau, on veut quelque chose qui peps, et on a besoin de jeunes pour quelque chose qui peps. On marque vos esprits, on met de la couleur.
De leur côté, les restaurateurs comme Alexandre Saint-Louis ont installé leurs terrasses protégées par de grands parasols.
Les gens ils se mettent en extérieur, ils viennent enfin profiter des beaux jours et du beau temps. On met en place aussi des brumisateurs pour que les gens puissent apprécier enfin cette fin de printemps et ce début d'été qui arrive à grands pas.
Après le froid, il faisait 17 degrés en début de semaine, mais surtout la pluie des derniers jours. Les Toulousains sont ravis de retrouver la chaleur.
Ça arrive un peu tôt, mais on est habitué. Donc on va pas se plaindre, on a eu suffisamment de pluie.
Là, il va faire très chaud. Les ventilateurs vont être de sortie. On prend des petits coups de soleil, mais on se protège.
Dans les prochaines heures, à Toulouse, le mercure va flirter avec les 30 degrés.
Mais alors attention, on peut pas parler de canicule, hein. On peut dire que c'est une vague de chaleur hein, quand même, puisqu'on va être nettement au-dessus des normales sur la durée avec un pic qui est attendu mardi prochain, nous dit Géraldine.
C'était le journal de Quentin Vinesse et l'heure de l'économie, 8h08.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel. On en parlait dans le journal de 8h. Sébastien Lecornu va donc tenir une conférence de presse cet après-midi. Il a promis de changer d'échelle pour aider les Français à traverser la crise énergétique. Est-ce qu'on sait combien on peut espérer?
Alors si je vous dis qu'au total, tout compris, y compris avec les nouvelles aides qui vont être annoncées, vous allez toucher à peu près 100 à 150 euros, est-ce que vous considérez qu'on change d'échelle par rapport à la problématique du pouvoir d'achat ? Alors justement, non, personne, en fait l'idée c'est que personne n'aura sans doute plus que 100 ou 150 euros parce que personne ne bénéficiera de...
Ce sera le maximum.
Ouais, ce sera le maximum. Franchement, ce sera le maximum parce
que... Tout est confondu.
Qu'est-ce qui va se passer cet après-midi? Qu'est-ce qu'il va annoncer Sébastien Lecornu? Alors oui, il va dire que on continue à aider les professions déjà soutenues, les pêcheurs, les routiers, les agriculteurs, le BTP. On va élargir les ristournes sur l'essence aux aides-soignantes et aux aides à domicile. Et puis, évidemment, pour les gros rouleurs, on va essayer de faire un petit peu plus, mais on va surtout solliciter au maximum les entreprises, hein, puisque ce sont elles qui ont de l'argent. C'est Total qui a quand même laissé 500 millions d'euros dans les poches des Français. On va peut-être aller, avec un peu de défiscalisation à la clé, inciter les entreprises à être plus généreuses sur la prime de partage de la valeur. Mais la prime de partage de la valeur, c'est un tiers à peu près des entreprises seulement.
C'est ce qu'on appelait la prime Macron.
La prime Macron, exactement. Ou bien, autre possibilité, c'est d'aller être peut-être un peu plus généreux sur les indemnités kilométriques, vous savez, pour qu'elles rapportent davantage aux salariés. Mais ça, c'est des mesures pour les classes moyennes qui travaillent, pas pour les plus modestes. Mais au final, donc, 100 à 150 euros, c'est le grand maximum. Bon, pour se rassurer, on peut dire que tous les conseils qui vont être prodigués pour aller vers plus de sobriété...
Oui, en fait, ils vont nous dire aussi à nous de faire des efforts, quoi.
Voilà, et tous ces conseils-là seront gratuits, je vous rassure, Apolline.
Combien de milliards est-ce qu'il va falloir économiser derrière pour financer notamment tout ça, et aussi le manque à gagner pour l'État, parce que ça y est, ça rentre plus...
Bah, le vrai problème, Apolline, c'est ça. C'est que s'il fallait parler de changement d'échelle, ce serait plutôt un changement d'échelle pour aller vers davantage de réduction des dépenses publiques et des déficits, parce que la facture de la guerre en Iran, on est déjà à 7 milliards d'euros si vous prenez les 6 milliards liés à la hausse du coût de la dette, à la au coût de la revalorisation du SMIC, on a déjà 1 milliard de plus.
En fait, celui qu'il faudrait aider là, c'est l'État.
Bah oui, 1 milliard de plus de rallonge de dépenses militaires. La fameuse cagnotte là, vous savez qu'elle s'est évaporée complètement. Aujourd'hui, on est à 300 millions de pertes sur les recettes fiscales liées au carburant, plus les 500 millions d'annonces déjà faites, sans compter les annonces de soir, on est déjà à 8 milliards. Si la croissance n'est pas au rendez-vous, ce sera 2 à 3 milliards de plus. Donc déjà, il va falloir trouver une dizaine de milliards. Ça, c'est quand même le plus compliqué. Et donc, je pense que Sébastien Lecornu...
Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il est ouvert...
Non, et je pense qu'il faudra s'estimer heureux, même si on ne nous annonce pas des nouveaux efforts du côté des impôts.
Les chiffres du jour, comme chaque jour sur RMC...
Alors, le gazole, on est à 2,16 € le litre, c'est 3 centimes de plus qu'il y a une semaine. Sur le sans-plomb 95, on est à 2,06 €. La bonne nouvelle, c'est que c'est un petit centime de moins qu'en début de semaine, mais c'est plus de 2 centimes quand même par rapport à la semaine dernière. Le pétrole, alors légère détente, hein, grâce à cette perspective, encore une fois, d'accord entre l'Iran et les États-Unis, mais on était à 110, on redescend à 115. Ça fait quand même 10 jours qu'on est au-dessus des 105 $ le baril, et puis petite détente aussi sur le gaz, on perd 5%.
Perspective d'accord, vous le dites, et ne manquez pas à 8h30 Jean-Yves Le Drian qui sera mon invité dans le face-à-face. Merci Emmanuel. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Il est 8h12 sur RMC et vous êtes nombreux à avoir entendu tout à l'heure Sophie qui racontait combien son quotidien avait changé, qu'elle se sentait désormais obligée de faire les poubelles. Elle racontait qu'elle se retrouvait avec d'autres voisins, d'autres familles une fois par semaine pour faire les poubelles ensemble. Sophie, qui a un job, hein, pourtant.
Oui, qui est une auditrice fidèle d'RMC, qui est aide-soignante, Sophie, et qui racontait son témoignage à 7h40 tout à l'heure. Ça a suscité pas mal de réactions chez vous, notamment Philippe qui nous dit simplement que le témoignage de Sophie l'a bouleversé. Christophe écrit « La France d'aujourd'hui, on mange sur les poubelles. Arrêtez d'inviter des politiques, c'est plus de Sophie qu'on veut entendre dans les messages. » La question du pouvoir d'achat, ça devient compliqué. « Je suis fonctionnaire », nous dit cet auditeur. « Mon épouse, aide-soignante avec 3 enfants, revenu d'environ 4000 euros par mois à 2. Pas d'aide, rien du tout, ça devient dur. » Voilà ce qu'il nous dit. J'ai Cécile qui nous dit « En ce qui me concerne, je n'en suis plus à me serrer la ceinture. Je suis déjà au dernier trou de la ceinture. C'est bien triste et bien difficile en ce moment. » Voilà ce que dit Cécile sur le WhatsApp RMC.
C'était vos messages, n'hésitez pas, vous continuez à nous écrire et à nous appeler au 32-16. Dans un instant, Arnaud Demange qui débarque pour nous faire rire. Ne manquez pas bien sûr à 8h30 le face-à-face, Jean-Yves Le Drian. Et juste après, il y aura face à Canteloup, Nicolas Canteloup qui est en direct avec nous tous les jours à 8h50. Il est 8h13, à tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
8h15, Arnaud Demange est avec nous sur RMC. Salut Arnaud.
Bonjour Apolline. Bonjour. Ce petit salut était très familier. Bonjour à tous, bonjour les amis. C'est parce qu'on est une radio de potes. On est une radio Coupe du Monde. On est la radio du sport. Bienvenue sur RMC, la radio officielle de la Coupe du Monde. Allez, pan dans ta gueule, France Inter. Eux aussi, ils vont la couvrir, la Coupe du Monde. Mais à leur façon, quoi. Allô. qui est intéressant quand on regarde ce match Azerbaïdjan-Géorgie, moi je conseille de le regarder en version non sous-titrée. Oui. Déjà, en noir et blanc, pour plus de films. On voit bien la métaphore d'un affrontement géopolitique beaucoup plus ancien. N'est-ce pas, Dominique Seux ? Merci, Dominique Seux. Et c'est très intéressant. Parce que le ballon représente peut-être la terre, finalement, hein, martelé par les coups de pied de l'homme propriétaire exploitant. Qu'en pensez-vous, Dominique Seux ? Voilà. Je sais pas. J'imagine que c'est comme ça. J'écoute pas Dominique Seux. Je fais preuve de créativité. Et donc, au sujet du foot. Un peu d'absurde. Allez, on est là pour rigoler quand même. C'est la fin de l'année, on débranche tout. Au sujet du foot, le documentaire sur le bus des Bleus et l'affaire Nainsna cartonne sur Netflix. C'est l'histoire de bus la plus sordide depuis Émile Louis. Sauf que, à Nainsna, c'était les 22 handicapés qui avaient pris le chauffeur en otage. Souvenez-vous. Alors, la grève des joueurs, c'est considéré comme une honte nationale, alors que ça ne devrait pas, Apolline. Qu'est-ce qui représente le mieux les Français? Une grève, des résultats nuls, un chef largué. Je me suis jamais senti aussi français. Tellement nous, quoi. Et Raymond Domenech a publié un communiqué pour exprimer sa colère. Ouais. Selon lui, ce doc est totalement à charge. Et alors là, attention. Parce qu'à chaque fois que Raymond Domenech est dans le dur, il demande Estelle Denis en mariage. Tout à l'heure, faudra écouter Estelle Midi.
RMC, Estelle Midi.
Et on a Raymond de Paris au 32-16. Salut Estelle, je peux te dire, j'adore ton émission. Raymond, non, s'il te plaît. Estelle, tu veux m'épouser? Raymond, on n'est plus ensemble depuis 10 ans. Oh, bon, ok. T'as pas le 06 d'Apolline de Malherbe, des fois? Vous avez une touche? Vous avez une touche,
Apolline? Non, je n'y attendais pas. Arnaud, il y a une nouvelle candidature à la présidentielle. Benjamin, Lucas, lundi de Génération S.
Oui, c'est l'avènement politique de la semaine, Apolline. On peut en parler quand même. Oui, oui, c'est vraiment l'effet tadam, quoi. Ouais. Alors, il a un handicap, alors, Benjamin Lucas, lundi. Qui va voter pour un type qui s'appelle Lundi? Personne aime le lundi.
C'est vrai. Bah oui. C'est son seul handicap, d'ailleurs.
C'est son seul handicap.
Dans la course.
Sinon, la notoriété, c'est là. Ouais, mais c'est le nom qui va pas. Là. Alors, Génération.S, c'est pas le parti de Patrick Bosso. Hein.
De stress, il y a point S.
Non, c'est pas un parti qui veut des pneus pour tous les jeunes. Génération.S, ce serait un peu limité comme programme politique. Non, Génération.S, c'est la formation qui avait été lancée par Benoît Hamon en 2017. Souvenez-vous, parce que personne s'en souvenait. Je suis sûr que Benjamin Lucas lundi, c'est juste un gars qui a retrouvé ce parti en faisant un vide-grenier, qui a dit « Tiens, c'est quoi ce truc ? Un parti politique ? Ah ok, bon. Et vous me le faites à combien ? Je vous propose 7 euros. Ça vous va 7 euros ?»
Non, 10 euros et je vous offre 3 CD de Patrick Bruel avec. Non. Bon, et si je rajoute un livre de Nicolas Dupont-Aignan ? Mais non plus, toujours pas.
Et maintenant qu'il a un parti, il s'est dit « Allez !» Pourquoi pas me présenter? Mais je suis pas plus nul qu'un autre. Et là, je sais ce que vous dites. La vache, il imite super bien Benjamin Lucas lundi. C'est vrai. Je l'ai énormément bossé.
Ah, la vache.
Mais parce que je pense que ça va devenir un personnage phare de la politique française. Est-ce qu'il est populaire, Benjamin Lucas lundi? Eh ben, on va écouter ses partisans.
Je t'aime le lundi.
Il est populaire. À fond. Le mardi. Vous vous souvenez de qui c'était?
J'ai oublié.
Blind test. Eduardo.
On s'en souviendra en tout cas de Benjamin Lucas lundi. Allez, Sébastien Lecornu tiendra une conférence aujourd'hui pour annoncer les nouvelles aides sur les gros rouleurs.
Désolé. Les gros rouleurs, c'est pas ceux-là.
Non,
c'est pas vous.
Non.
C'est ceux de la route. Alors l'essence, c'est très compliqué là. Moi, j'ai essayé de faire le plein à côté de chez moi. Avant-hier, les pompes sont vides. Vous rendez compte, si Marty McFly et le Doc débarquent en septembre 2026 à bord de leur voiture à voyager dans le temps, ils vont galérer.
Nom de Zeus, Marty. Le réservoir de la DeLorean est quasiment à sec. Il faut aller faire le plein.
Mais Doc, on peut pas, on est en septembre 2026. L'essence est à 73,50 euros le litre.
Mais Marty, nous n'avons pas cet argent. Nous allons devoir rester bloqués en 2026.
C'est pas grave, Doc.
Pas grave.
C'est Gabriel.
Marty, tu tiens vraiment à vivre encore une année de plus sous la présidence Macron?
Eh bien justement, puisqu'on parle de moi, bonjour. Je voulais voir avec vous, est-ce que c'est possible de vous l'emprunter, votre bagnole? J'aimerais revenir au matin où j'ai annoncé la dissolution et vous avez voté comme des cons.
Nom de Zeus!
président Macron. Hélas, non, ce n'est pas possible. Bon, d'accord. Est-ce qu'au moins, je peux revenir au matin où Brigitte a découvert mes SMS à Golshifteh Farhani, l'actrice iranienne, parce que ça m'arrange pas du tout, cette histoire. Non plus, je suis désolé. Bah, décidément, c'est vraiment pas de bol. Allez, à demain
j'adore,
matin.
J'adore. Merci. Je vous aime, Arnaud. Il est 8h20 et c'est l'heure de faire gagner Julien. Tiens, bonjour Julien.
Bonjour Apolline.
Julien, quel plaisir, parce que c'est le jeu, vous le savez, vous avez été sélectionné au 7-32-16, vous êtes d'ores et déjà gagnant et j'ai devant moi ce tableau avec la sélection des Bleus. Vous le savez, derrière chaque joueur, il y a un cadeau. C'est mon moment un peu bout de la fortune. Alors dites-moi, vous choisissez qui?
Alors j'ai choisi le numéro 16, Mike Maignan.
Ouais.
Mike Maignan, on y va.
Allez, allez,
on y va.
Allez,
allez.
Allez, le gardien des Bleus.
Allez.
Moi, j'y crois.
Tu crois?
Ouais.
Mais dis donc, c'est le pack high-tech.
Waouh.
Mais ouais, bravo Julien. Julien, attention, vous êtes prêts? Vous êtes assis là.
Je suis prêt.
Alors, Julien, vous avez gagné un vidéoprojecteur Samsung, un écran gonflable extérieur pour regarder dans le jardin. Génial. Mais oui, c'est génial.
C'est génial.
La barre de son, le casque TV sans fil, pour si vous voulez le regarder, mais sans emmerder les voisins. Qu'est-ce que vous en pensez, Julien?
Incroyable, incroyable. Merci beaucoup.
C'est cool, c'est cool. Julien, vous faites quoi dans la vie?
Je suis chauffeur de taxi et là j'ai un ami qui fait de l'import-export qui se lance aujourd'hui là-dedans.
Eh ben, il va franchement pouvoir passer aussi des bonnes soirées avec vous pour suivre la Coupe du Monde. On est très très heureux pour vous. Félicitations, merci. L'écran gonflable, ah ouais. Ça plaît beaucoup à Mathieu, il peut s'incruster dans votre jardin, je vous le préviens. Craquer, ouais. Julien à Aix-en-Provence, félicitations à vous, il est 8h22. On relance le jeu, c'est un parti, jour, parce que liste. C'est l'heure d'envoyer liste. J'ai plus envie de lâcher mon micro-main.
C'est bien.
Donc on envoie liste au 7-32-16 et c'est reparti. Le prochain gagnant donc de la liste des 26, et vous l'avez vu avec Julien, c'est des cadeaux exceptionnels. Il est 8h22, sans transition, dans un instant c'est le face-à-face. Mon invité c'est Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, ancien ministre de la Défense et aujourd'hui représentant pour le Liban, Donald Trump, qui cette nuit dit qu'il pourrait y avoir un accord, mais je vous avoue qu'on a un peu du mal à suivre et on a besoin de Jean-Yves Le Drian. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Et le rappel des titres, Victor Pourchet.
De nouvelles aides carburants attendues, Sébastien Lecornu doit les annoncer à 17h face à la presse. D'ores et déjà, on sait que ces aides ne devraient pas être généralisées à toute la population. La décision d'annuler ou pas des concerts appartient à Patrick Bruel. Déclaration ce matin de la ministre chargée de l'égalité, Aurore Berger. Hier, des maires de grandes villes ont appelé l'artiste à reporter ses représentations de lui-même face aux accusations de viol. Le sport et le foot, un premier champion d'Europe sacré hier soir. Les Anglais d'Aston Villa ont remporté la finale de l'Europa League. Et puis la météo, ça va être rapide. Du soleil pour tout le monde aujourd'hui. Et côté température, de 23 degrés à Lille jusqu'à 31 à Toulouse, 25 à Paris et 29 à La Rochelle ou encore 27 à Lyon et Marseille.
C'était le rappel des titres de Victor Pourchet. Dans un instant, mon invité c'est Jean-Yves Le Drian. Jean-Yves Le Drian, l'ancien ministre des Affaires étrangères, enfin ancien ministre de la Défense, désormais envoyé spécial pour le Liban. Y a-t-il une chance d'un accord de paix, à la fois du côté États-Unis-Iran, mais aussi Israël-Liban? Réponse dans un instant avec Jean-Yves Le Drian.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin. Face à face. Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Yves Le Drian.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro pour répondre à mes questions ce matin. Vous êtes l'ancien ministre de la Défense, évidemment, et ancien ministre des Affaires étrangères. Désormais, vous êtes l'envoyé personnel du président pour le Liban. De très nombreuses questions pour essayer de comprendre avec vous à quel moment de bascule on est. Conférence de presse de Sébastien Lecornu cet après-midi sur la question des conséquences de la guerre. Mais il le dit, il faut s'attendre à ce que ça dure, à ce que ça dure évidemment sur les conséquences ici, mais ça veut dire aussi à ce que ça dure là-bas. Les frappes pourraient reprendre à tout moment, puisque Donald Trump dit qu'on est, je cite, sur un fil, parce que si nous n'obtenons pas les bonnes réponses, cela peut aller très vite, nous sommes tout prêts à agir, il faut obtenir les bonnes réponses, elles devront être entièrement 100% satisfaisantes. Voilà ce que dit encore cette nuit le président Trump. Vous y comprenez quelque chose?
Mais ça, c'est des gages donnés à M. Netanyahou.
Parce qu'en réalité, ce qui s'est passé depuis quelques jours, c'est qu'on a quitté le surplace. Il y avait une forme de surplace depuis plusieurs semaines, depuis les deux blocus mis en place, mis en œuvre, parce que chacune des parties était pressée de sortir, pour des raisons différentes. Les États-Unis, parce que la cote de popularité du président Trump est en très sérieuse baisse, parce que les Américains ne souhaitent pas que les opérations militaires se poursuivent, parce qu'il y a de l'inflation qui arrive, parce qu'il y a les midterms qui arrivent, et puis les Iraniens, parce que malgré l'oppression, les difficultés allaient devenir beaucoup plus grandes de tenir la population avec les conséquences qu'avait le blocus sur ne serait-ce que les services minimums et l'alimentation. Donc chacun avait envie d'en sortir, mais personne ne le disait. Mmh. On était dans une espèce de bluff ou de partie de poker. C'est celui qui lâchera le premier. Et là, on a quitté le surplace parce que on a vu M. Vance prendre des positions d'ouverture pour une négociation. C'était pas arrivé depuis Islamabad. Depuis les négociations d'Islamabad, c'est lui qui avait mené ces négociations, qui avait failli aboutir quand même. Et on a vu du côté iranien la montée en puissance du président Pezeshkian, qui jusqu'à présent était très discret. Et là, il
fait des ouvertures. Et qui pourrait devenir un personnage clé de cette
Il y a des ouvertures qui ont eu lieu, et donc on a quitté le surplace et on commence à se parler, ce qui ne fait évidemment pas plaisir à M. Netanyahou, qui est fou furieux. Et donc, ce que vous évoquez tout à l'heure sur les réactions de Trump cette nuit, c'est aussi une forme de couverture qu'il se donne à l'égard de Netanyahou, parce que il y a cette lettre d'intention qui a été produite, une négociation, une médiation très forte qui a été menée, qui est toujours menée par les Pakistanais, mais aussi par d'autres acteurs de la région, les Saoudiens, le Qatar, le Sultanat d'Oman, pour pousser vers une négociation avec une lettre d'intention dont on a quelques échos, parce que personne n'a vu le texte réellement, mais qui montre qu'il y a des signes d'ouverture et qu'il y a des deux côtés des volontés. Alors, est-ce qu'elles seront majoritaires? Je ne sais pas. Pour permettre d'avoir non seulement un cessez-le-feu, il existe non seulement l'ouverture du détroit, mais aussi un processus permettant de sortir
et de pouvoir aller même vers quelque chose de l'ordre de la paix. Jean-Yves Le Drian, on va revenir évidemment sur la question de Benjamin Netanyahou. Est-ce qu'il acceptera en quelque sorte cet arrêt de la guerre et donc de suivre Donald Trump éventuellement là-dessus? Mais d'abord sur les négociations, vous parliez de cette lettre d'intention. Il pourrait négocier sur quoi? Sur quoi est-ce qu'on pourrait imaginer malgré tout qu'il se retrouve Iran et États-Unis?
Il y a plusieurs questions qui sont posées. D'abord, il y a la question de l'ouverture du détroit. Est-ce qu'on admet, les deux parties admettent de retirer leur blocage et leur blocus pour faire en sorte qu'on revienne à la libre circulation?
Blocage iranien, blocus américain,
ouverture à la libre circulation historique. D'ailleurs, j'ai remarqué que la Chine avait souhaité que on revienne à la libre circulation lors de la venue du président Trump à Pékin il y a quelques
jours. Ça veut dire sans péage? Parce qu'on rappelle quand même que la nuit dernière, un bateau sud-coréen est en effet passé avec à son bord une très grosse cargaison de pétrole issu du Koweït. Il est passé, mais il a payé. Il a payé $1 par baril.
Mais le principe de fond, c'est de revenir à la libre circulation dans le Golfe. C'est la volonté de l'ensemble des acteurs internationaux, y compris les grandes puissances.
Donc ça, le détroit,
ça fait partie des discussions, mais aussi la question du nucléaire. Parce que le principe de base de l'intervention américaine, c'était d'empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Et pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, il faut contrôler. Et pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, il faut limiter le nombre de centrifugeuses. Et pour empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire, il faut régler la question des 440 kilos d'uranium enrichi qui sont aujourd'hui stockés on ne sait pas où. Il y a toutes ces questions-là qui sont posées. La discussion nécessite du temps, c'est très technique. Moi, j'ai négocié, il fut un temps avec le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, qui est très compétent, et évidemment, il faut du temps de négociation, mais il faut des signes avant. Et les signes, ils sont en particulier, oui, on renonce aux 440 kilos d'uranium enrichi. Oui, on rentre dans une négociation pour limiter
l'enrichissement. Ça ne veut pas dire qu'on les... On renonce,
ça veut dire qu'on dilue, ça veut dire qu'on transfère, ça veut dire qu'on les identifie et on les sort, d'une manière ou d'une autre. Et on fait contrôler. Et ce que j'observe...
Ça veut dire accepter des contrôleurs, par principe. Ça veut dire accepter qu'éventuellement l'Agence internationale de l'énergie atomique puisse à tout moment venir visiter les usines sur le sol iranien.
Ça veut dire que l'Agence pour l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, reprend son rôle qu'elle avait auparavant de contrôle des engagements iraniens sur la question du nucléaire. Si c'est ça qu'il y a dans la lettre d'intention, et si c'est validé par le président Trump, et si c'est validé par les Iraniens, ça c'est une grande avancée.
Je remarque que vous ne mentionnez pas le régime. Ça n'existe plus. Ça n'est même plus une question. Le changement de régime, le renversement de ce régime.
Parce qu'il y a de l'oppression. Parce que le pouvoir iranien fonctionne avec les gardiens de la révolution, avec des Basidjis qui contrôlent l'ensemble du pays, et parce que le peuple iranien ne se révolte pas là maintenant, d'abord sous les bombes et en raison de l'oppression, mais ça viendra un jour. Mais ça ne vient pas dans ces conditions-là. On n'a jamais vu de changement de régime par des bombardements.
Ça viendra un jour, c'est-à-dire que vous dites ce matin, Jean-Yves Le Drian, que vous êtes convaincu qu'un jour ce régime basculera et que le peuple sera libéré.
Je pense, j'en suis convaincu, dans l'histoire. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment parce que ceux qui rêvaient, comme ça a été, semble-t-il, le cas des services de renseignement israéliens, que le peuple allait se soulever à partir du moment où plusieurs des responsables iraniens avaient été éliminés, se trompent. C'est pas comme ça que ça se passe.
Israël, pendant ce temps-là, l'ambassadeur israélien est convoqué aujourd'hui au ministère des Affaires étrangères. On a vu ces images. Le ministre de la Sécurité intérieure israélien, Monsieur Ben Gvir, avec des militants de cette flottille pro-palestinienne qui avait été arrêtée. On les voit menottés, à genoux, plaqué, la tête baissée sur le sol, dans une position clairement d'humiliation. Il y a 37 Français parmi ces militants. Voici la réaction du ministre des Affaires étrangères français, Jean-Noël Barrot. Les agissements de Monsieur Ben Gvir à l'égard des passagers de la flottille Global Smud, dénoncés par ses propres collègues au gouvernement israélien, c'est inadmissible. J'ai demandé que l'ambassadeur d'Israël en France soit convoqué pour exprimer notre indignation, obtenir des explications. La sécurité de nos compatriotes est une priorité constante, quoi qu'on pense de cette flottille, et nous avons indiqué à plusieurs reprises notre désapprobation de cette démarche. Nos compatriotes qui y participent doivent être traités avec respect et libérés dans les plus brefs délais. Avoir convoqué l'ambassadeur israélien, est-ce que ça suffit ?
Cette mise en scène est honteuse. Ça ne m'étonne pas de la part de Ben Gvir, qui était un habitué de l'outrance. Et ça me permet de dire que certains des ennemis, des meilleurs ennemis, des plus forts ennemis d'Israël sont en Israël. Pour l'image de marque d'Israël, c'est catastrophique.
Et ce Ben Gvir,
il est membre du gouvernement. Donc il peut avoir aussi des sanctions de la part de son gouvernement. Je vois que le Premier ministre Netanyahou a fait part de son indignation aussi. Bon, il faut passer aux actes.
Benjamin Netanyahou lui-même se dit indigné les images de son ministre de la Sécurité intérieure.
Et par ailleurs, la réprobation internationale est unanime. Ça veut dire que les Israéliens doivent s'interroger sur la qualité et la volonté et les engagements de certains de ces ministres, parce que Monsieur Ben Gvir, c'est pas
un
spécialiste du sujet, puisque à l'égard de la Cisjordanie, c'est lui qui incite à la colonisation accentuée, c'est lui qui incite à la répression. Et puis par ailleurs, cette affaire nous permet de dire que la question de Gaza n'est pas réglée. Alors moi, je pense que le système des flottilles n'est pas sans doute le meilleur système opératoire pour protester. N'empêche que, aujourd'hui, la situation à Gaza dont on ne parle plus, elle est toujours impossible. C'est un trou noir, comme disent certains. La population, les 2 millions de Gazaouis qui sont là, sont dans des situations de dérive sanitaire et de dérive humanitaire catastrophique. La presse n'est toujours pas admise à rentrer à Gaza. Donc la question de Gaza et la question du Hamas va revenir. Parce que la paix par la force, pour reprendre le terme de M. Netanyahou, ça marche pas.
Ça ne marche pas.
Ça ne marche nulle part. On le voit pour la question de l'Iran, on le voit pour la question de Gaza. Et la question de Gaza reste au cœur des difficultés à venir, malheureusement.
Je vous repose la question, est-ce que l'ambassadeur israélien doit même... ça doit aller plus loin, c'est-à-dire pas seulement le convoquer, mais peut-être
le gouvernement
renvoyer.
Français doit prendre les initiatives qui conviennent. Mais je pense que le gouvernement français et le président de la République ont pris à l'égard de la question palestinienne des initiatives très fortes. Je vous rappelle la reconnaissance de l'État palestinien et la mobilisation des Nations Unies autour de cette question à l'automne dernier.
Liban et Israël, officiellement la trêve est prolongée de 45 jours, mais là encore il y a des frappes régulières d'Israël sur le site du Liban, du Hezbollah vis-à-vis du nord d'Israël. Est-ce qu'on peut quand même parler de trêve ?
Il y a au moins une perspective de 45 jours où on va continuer à discuter. Moi, je souhaite que la trêve soit respectée, et évidemment, et qu'elle soit respectée et par le Hezbollah et par les Israéliens. Mais ce que je voulais dire sur le Liban, c'est qu'aujourd'hui, le Liban est en situation de péril sur son unité et sur son intégrité. est en situation de péril sur son unité parce que il y a les communautés libanaises sont divisées et à l'égard du Hezbollah et à l'égard d'Israël. Il y a des risques de conflictualité. Le Liban est menacé dans son intégrité parce qu'il y a une partie de son territoire qui est occupée par Israël et une autre partie qui est agitée et animée par le Hezbollah qui sert les intérêts iraniens, donc d'une puissance étrangère. Donc il y a un risque sur l'unité, un risque sur l'intégrité et il y a là, aujourd'hui au Liban, des dirigeants de haute qualité qui sont courageux et qui, le président Aoun ou le premier ministre Nawaz Salam, prennent des initiatives pour essayer de sortir de cet étau et d'aboutir à un processus qui redonnera à l'État libanais les moyens d'agir et d'exister. C'est ça le sujet. Il est très lourd, il est très difficile et qu'il y ait une période de 45 jours pour essayer de s'en sortir, c'est déjà le minimum.
Il y a eu à nouveau une rencontre entre les ambassadeurs d'Israël et du Liban. À un temps fut espéré une rencontre entre certains, entre les dirigeants, c'est en tout cas ce qu'imaginait Donald Trump. Est-ce que ce dialogue, en tout cas, pour vous, est fécond et qu'est-ce qu'on peut en attendre ?
Oui, même si Israël a refusé que la France fasse partie de cette discussion, alors que les Libanais le demandaient, le fait que les États-Unis estiment qu'il y a un vrai sujet, une vraie négociation à mener, c'est plutôt un point positif. Le fait que le président Aoun lui-même ait pris l'initiative de rencontrer Israël directement, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. C'est une initiative historique. Il a eu l'audace de le faire, le courage de le faire. C'est aussi un point très positif de là pour l'avenir. Maintenant, il faut essayer de mettre tout ça en œuvre et faire en sorte que l'État libanais soit rétabli dans ses fondamentaux. Et dans les fondamentaux de l'État libanais, il y a la maîtrise des armes, le monopole des armes. Un État qui n'a pas le monopole des armes, c'est un État qui n'existe pas.
Ce que vous voulez dire, c'est que le fait que le Hezbollah soit aussi lourdement armé, et on le voit en réalité tous les jours, c'est une concurrence immédiate avec l'armée régulière libanaise.
Oui, d'une certaine manière. Et lorsque le Hezbollah a commencé à tirer le 2 mars dernier sur Israël, parce que c'est le Hezbollah qui a commencé l'initiative, le journal libanais bien connu, L'Orient le Jour, avait titré « Le Hezbollah suicide le Liban ». Je trouve que la formule était très juste. C'est-à-dire le Hezbollah a choisi l'Iran plutôt que le Liban, en se référant par ailleurs au fait qu'il était l'axe de la résistance. Non, il est l'envoyé de l'Iran sur la frontière israélienne et de cette manière-là, il a été à l'initiative de la guerre qui existe aujourd'hui. Bon, il n'a pas choisi entre la paix et la guerre, il a choisi l'Iran contre le Liban. Aujourd'hui, il faut rétablir l'État libanais. C'est ce que font, je crois, les dirigeants libanais avec beaucoup de courage.
Jean-Yves Le Drian, vous le disiez, est-ce que quand Donald Trump s'exprime cette nuit, il y a un message qu'il envoie aussi à Benjamin Netanyahou, sous-entendu, bon, quand même, s'il le faut, je reprendrai cette guerre. Est-ce que si, effectivement, il y a des négociations qui aboutissent avec le début d'une réflexion, y compris sur le nucléaire, est-ce que Benjamin Netanyahou pourrait, en quelque sorte, se dissocier des États-Unis et poursuivre cette guerre seul ?
Le risque est celui-là. Les Iraniens et les Israéliens n'ont pas intérêt à lâcher leurs propres alliés là et leur propre soutien. Donc ce risque est là, mais l'initiative de négociation sur 45 jours, j'espère, permettra une voie de sortie qui est difficile, mais pour laquelle la France apporte tout son concours.
Et je précise qu'on l'apprend à l'instant, le chef de l'armée pakistanaise dit être attendu à Téhéran aujourd'hui. C'est donc aussi une des manières de poursuivre ces discussions.
C'est ce que je vous disais en commençant, on a quitté sur place, mais j'ai une constatation un peu bizarre à la fin de ce processus, quand je regarde ce processus. Finalement, on est en train de revenir à ce qu'on avait conclu en 2015.
C'est-à-dire, à ce moment-là, les accords sur le nucléaire.
Le JCPOA qui empêchait l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire et qui mettait en place des contrôles pour éviter cette issue.
C'était l'accord de Vienne.
C'était l'accord de Vienne. C'est l'accord qui a duré jusqu'en 2018, date à laquelle le même président Trump s'est retiré. Et là, il est en train de revenir sur ses engagements.
Un mot encore sur le rôle de la France et sur le rôle de l'OTAN. On a l'impression que l'OTAN, dont on parlait il y a encore quelques années comme étant en état de mort cérébrale, c'est l'expression d'Emmanuel Macron, pourrait être peut-être la manière d'accompagner ce leadership français et britannique pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Est-ce que l'OTAN a encore de l'avenir ?
Ben on le verra lors du sommet de l'OTAN qui va se tenir en Turquie au mois de juillet. Celui qui remet en cause aujourd'hui l'OTAN et sa mission, c'est le président Trump. Le fait que 32 pays soient unis dans une alliance ne dépend pas uniquement du président Trump. C'est-à-dire que les Européens ont vocation et ont déclaré vouloir renforcer le pilier européen de l'OTAN pour que dans cette instance et dans cet outil d'organisation, il y ait une force européenne qui soit à même d'agir de manière autonome à l'intérieur de l'OTAN. Je pense que c'est ça la solution. Mais pour revenir à l'initiative concernant le détroit d'Ormuz et le golfe arabo-persique, le fait qu'il y ait une forme de coalition de mission commune qui a été décidée à l'initiative du président Macron entre les Britanniques et les Français pour assurer la sécurité de la navigation dans le détroit et dans le golfe lorsqu'il y aura un processus de désescalade, c'est une très bonne initiative et l'Europe est dans son rôle.
Donald Trump qui a dit d'ailleurs qu'il serait en France au moment du sommet du G7 oui. En juillet, c'est bien ça ?
Bah c'est normal.
Il faut.
C'est le G7, c'est pour que les dirigeants de ces sept pays se retrouvent et évaluent ensemble leurs propres positions et leurs propres orientations. Ce serait inacceptable que le président Trump n'y soit pas, ou alors à ce moment-là, ce serait la confirmation d'un schisme transatlantique.
Une question encore sur les jeux d'alliance et la manière dont ça se répartit désormais autour des pays du Golfe. L'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, on le sent bien, les Émirats Arabes Unis ont demandé désormais quasi officiellement leur aide dans un accord avec Israël. L'Arabie Saoudite, qui pourtant était dans les accords d'Abraham, n'est plus forcément dans cette logique-là. Où est-ce qu'on en est ?
Non, l'Arabie Saoudite n'était pas dans les accords d'Abraham.
Était dans cette discussion-là. Aujourd'hui, on a l'impression que ce sont aussi les deux concurrents dans cette influence.
Il y a des orientations différentes qui sont prises par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite sur un certain nombre de points. Ils continuent à se parler et à être solidaires face aux attaques dont sont victimes les Émirats Arabes Unis, y compris les attaques
iraniennes. Mais est-ce que c'est vraiment des acteurs désormais aussi de ce conflit ?
Je considère que l'Arabie Saoudite, dans les discussions qui nous permettent de quitter le surplace, a un rôle tout à fait essentiel dans les concertations avec la Turquie, avec l'Égypte, avec le Pakistan, pour aboutir à une solution négociée.
On quitte le surplace. Merci Jean-Yves Le Drian d'avoir répondu à mes questions ce matin. Ancien ministre de la Défense, ancien ministre des Affaires étrangères et envoyé personnel du président pour le Liban. Il est 8h46 sur RMC BF. Dans un instant, Nicolas Cantelou débarque avec son impertinence et son humour. Face à Cantelou, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Cantelou.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Cantelou. Jean-Yves Le Drian était mon invité dans le face-à-face. François Hollande, vous vouliez réagir. Bonjour.
Oui. Bonjour à tous. Pardonnez-moi, Monsieur Belherbe, je vais être assez franc, assez direct, mais j'ai trouvé votre interview... formidable. Oui, d'habitude, parce que quand j'écoute Jean-Yves Le Drian, j'ai tendance à piquer du nez aux deux tiers, voire aux quatre quarts, aux trois quarts, c'est le petit déjeuner. D'ailleurs, j'ai une devinette. Et quand on a un quatre quarts devant soi, et qu'on en mange cinq parts, qu'est-ce qui reste? Moi, j'ai essayé, les miettes.
Les miettes.
Oui. Bref, je m'égare. Mon Le Drian a été fantastique. Oui. Il était au-dessus de la mêlée, aérien, félin, comme moi.
Donc, vous voulez être bon sur l'Iran, sur Donald Trump.
Non, on s'en fout. Non, Jean-Yves Le Drian a été juste excellent parce que lui, il n'a pas annoncé sa candidature en 2027. Mais à gauche en ce moment, c'est très là. Je crois que même c'est unique. C'est le seul,
c'est vrai. Alors, Jean-Yves Le Drian est donc l'envoyé spécial quand même d'Emmanuel Macron maintenant au Liban.
Oui. Il a le profil idéal, disons-le. Vous savez, au Moyen-Orient, personne ne nous écoute. Donc c'est très judicieux d'avoir mis quelqu'un comme Jean-Yves, que ça ne dérange pas d'être inactif. Mais ça a le mérite d'occuper sa retraite. Mais vous le verriez dans ce bureau. Il fait des sudoku, il colorie des cartes, il regarde Michel Drucker avec son petit plaid sur les genoux. De temps en temps, Macron vient aux nouvelles pour voir s'assurer qu'il est vivant déjà.
Mais
c'est encore important de s'occuper de nos anciens. Hein. Ouais. Vous voyez là, vous lui avez fait la conversation pendant 20 minutes. Il était tout content.
Merci François Hollande. Dominique de Villepin, tiens, vous souhaitiez aussi réagir.
Oui, bonjour. Après Jean-Yves Le Drian, il était temps de laisser la place à Dominique Le Brillant. Écoutez, la façon dont Jean-Yves Le Drian s'occupe de sa mission au Liban, je le dis haut et fort, est une véritable atteinte au fonctionnement légitime d'une démocratie.
Ah bon, mais pourquoi ?
Bah écoutez, il donne des conseils à tout le monde, mais il les facture pas. Hein,
c'est de la concurrence déloyale.
Il veut plomber mon business ou quoi? Il va faire chuter les prix, ce con là.
Merci, monsieur Dulpin. Et sans plus attendre, on retrouve Stéphane Bern pour les titres de l'actualité.
Oh oui, 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 bonjour Apolline. Dis donc, je vous ai vu, vous marchez sur mes plates-bandes, vous.
Qu'est-ce que
vous faites
encore?
Mais si, en invitant Jean-Yves Le Drian, vous aussi vous mettez à l'honneur des monuments historiques. Ben oui, ben oui.
Mais si, un ancien
ministre qui se revendique encore macroniste alors que tout le monde quitte le navire. Mais c'est une pièce très rare, ça appartient à l'histoire désormais. Allez, oh, je suis taquin, c'est parti pour les titres. Canal Plus lâche du lest face à la fronde du monde du cinéma. Du coup, tous les films où apparaissent des signataires de la tribune anti-Bolloré seront diffusés mais en crypté. Oui. Bon, mais du coup, ça change pas beaucoup. Allez, dans un rapport, l'ONU exige qu'Israël empêche un génocide à Gaza. Bah, dites donc, les gars de l'ONU, il était temps de vous réveiller. Hein. Vous allez voir que bientôt, les États-Unis vont demander. L'ONU va demander aux États-Unis d'arrêter d'exterminer les Indiens. Allez, à vous, Apolline.
Merci, Stéphane. Gérald Darmanin est avec nous. Monsieur le ministre, vous avez annoncé un projet de loi pour réduire les délais de jugement.
Oui, bonjour madame. Oui, bonjour. Pardon, mais vous avez mal prononcé mon nom. Mon nom, c'est Gérald Darmanin.
Darmanin. Oui.
Darmanin, D-A-B-A-D-I-N.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est pas grave, madame Malherbe. Détendez-vous, ça va bien se passer. Vous l'avez dit, juste titre, la justice est engorgée. Pourquoi? Parce que les greffiers sont en burn-out, pardonnez-moi, à cause de monsieur Bruel. Parce que les magistrats travaillent 65 heures supplémentaires par semaine. L'avocat de monsieur Bruel, qui est d'ailleurs aussi l'avocat de Nicolas Sarkozy, me disait, à cause des deux, de Sarkozy et Bruel, ça fait 8 mois que j'ai pas vu mes gosses.
Maud Bréjon a dit qu'à titre personnel, elle n'irait pas avoir ses conseils.
Oui, c'est normal, madame de Malherbe. Maud Bréjon, vous savez, est une femme de 35 ans. Et qui s'appelle Maud, elle s'appelle pas Sylvie ou Nathalie. Mmh. Hein, donc elle ne va pas au concert de Patrick Bruel, bien sûr. Je ne veux pas dire que seules les Sylvie ou les Nathalie vont au concert de Monsieur Bruel. Il y a aussi les Séverine, les Chantal, les Marie-Paul, les Véronique, les Patricia. Mais c'est vrai, on est pile dans la cible. Mais qu'elles se rassurent, lors des concerts, elles seront protégées. Monsieur Bruel ne les approchera pas, je m'y engage. Ouvrons les yeux. Aujourd'hui, elles sont beaucoup trop âgées pour risquer quoi que ce soit.
Bon, allez, merci.
Voyez, oui, ça s'est bien passé, madame Malherbe.
Oui, c'est bon. Allez, ça suffit. Pause. Et puis, pour faire un point sur l'affaire Bruel, on retrouve tout de suite. Eh bien, on retrouve le général Félix Rosby. Bah, général, qu'est-ce que vous faites là? Là, on va parler de l'affaire Bruel. Pourquoi
que je suis là? C'est la vraie question. C'est la question que je me pose très souvent. Mais je suis là parce que je suis polyvalent.
Ah.
Et oui. Donc, je vais vous parler de l'affaire Bruel.
Ah oui.
Oui. Oui, parce que c'est une bataille judiciaire. Et moi, des batailles, ça me connaît.
C'est vrai.
Alors, puis c'est surtout parce que moi, j'ai toujours un coup d'avance. Parce que les guerres, ça peut s'arrêter à tout moment. On le sait. Alors que les plaintes de Patrick Bruel, il en trompe tous les jours. C'est ça l'avenir. Hein, il en trompe tous les jours des nouvelles.
Bon, alors, puisque vous êtes là, allons-y. La procureure de Paris a annoncé que toutes les plaintes contre le chanteur seront désormais regroupées au parquet de Nanterre.
Oui, alors justement, le parquet de Nanterre. Grand 1, le parquet de Nanterre. Ah. Oui, parce que je suis pédagogue. C'est une très mauvaise nouvelle pour les plaignantes, le parquet de Nanterre. Parce qu'on connaît la réputation du parquet de Nanterre. C'est qu'il enterre les plaintes.
Ah, il enterre.
Oui, et toutes les plaintes, elles finissent enterrées. Oui. Grand 2, le théâtre d'opération. Oui, parce que M. Bruel joue au théâtre. Donc le théâtre d'opération, ah, oui, ça marche bien. Alors, je vous ai préparé une carte et je vais vous montrer où les lieux que ça s'est passé grâce à ma baguette télescopique que je suis en train d'ouvrir.
Non, et vous n'y arrivez pas. Non, je peux pas
ouvrir.
Pourquoi?
Mais non, je peux pas. Non, c'est pas possible. Je peux pas parler de l'affaire Bruel avec la baguette ouverte. C'est un sujet trop d'explosif. Alors oui, ce serait la première fois que je parle à ma baguette ouverte. C'est pas possible. Non. Alors, c'est un sujet trop explosif. Oui. Alors, je vais vous parler d'autre chose que je pourrais vous parler parce que je suis polyvalent. Oui, je vais vous parler du virus d'Ebola.
Ah, bah,
parce que je suis polyvalent. Alors, il faut savoir que c'est un virus très dangereux. Il faut prévenir vos téléspectateurs qui s'attrapent sur les canapés. Je préfère, oui, Paul, oui, parce que Paul Tronier Chauffard, authentico, authentica qualita, Ebola. Et voilà. Oui, oui, mais c'est, alors, comment vous expliquez? Oui, ça vient de très, très loin. C'est bossé, hein.
C'est
comme si vous, pourquoi on l'attrape? C'est comme si vous étiez assis sur un canapé à côté de Patrick Bruel. Oh, bah ouais. C'est très dangereux. C'est comme Marshall et Truchot qui sont assis à côté l'un de l'autre depuis 20 ans, mais eux, au moins, ils sont consentants.
Nicolas, bien sûr. Pas 50 coups que l'on retrouve dès demain, 8h50 sur RMC et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG. Alain est avec nous. Alain, quel est le programme?
Eh bien, dans les grandes gueules, on a un agriculteur, Didier Giraud, qui fulmine depuis hier parce que entendre Sandrine Rousseau dire que désormais dans les restaurants, elle aimerait bien voir écrit cadavre de vache plutôt qu'entrecôte, eh bien, ça le rend fou furieux et ce sera dans les GG dans un instant avec vous au 32-16.